jusqu'à 14h. On en jase.
Bon. On en jase à Boulevard 101, ton émission d'actualité. On parle d'actualité locale, comme on l'a fait avec les voyages de Bruno Marchand, d'actualité également provinciale. Puis on parle des grands enjeux, surtout ce qui se passe aux États-Unis présentement avec la guerre en Iran. Dans ce qui vous touche beaucoup, il y a la météo. Présentement, c'est 1 degré, mais attention, il pourrait avoir des averses de neige et de bruine verglaçante aujourd'hui. Ça passe à moins 5 cette nuit, 4 degrés demain cependant, alternant soleil et nuages. Il n'y aura pas de précipitations. Les précipitations reviennent vendredi avec un 5 degrés. Ça sera de la neige ou de la pluie, dépendamment du moment dans la journée. Samedi, c'est 3 degrés, seulement 30 % de possibilité d'averses. Et dimanche de Pâques, 10 degrés. Mais de la pluie. Je vous rappelle également que GasBuddy vous permet de regarder quel est l'endroit le meilleur pour votre prix d'essence parce que qui dit prix d'essence dit grande semaine. Et quand il y a une grande fin de semaine, comme là, le congé de Pâques, ben, le prix de l'essence augmente tout le temps et c'est le cas. Et d'ailleurs, Mathias Turcotte va nous faire un excellent dossier dans l'émission Marceau le matin, demain matin, à savoir pourquoi ça augmente tout le temps quand on arrive à l'approche de ces grands dossiers. Et il y a également la régie de l'énergie via régie de l'essence qui a fait une carte interactive, mais qui va être à peaufiner là, après essai de Pascal CV, Mathias Turcotte et Jeff Fortin. Pascal, avant qu'on parle à Leslie Hill, directrice nationale de la DPJ, il y a de la circulation à mentionner et également quelques manchettes.
Oui, l'autoroute 40 Est à la sortie de la route 138 Ouest est partiellement entravée. Il y a une panne là, Jeff. Sinon, Henri IV Sud à la hauteur chemin Sainte-Foy, c'est la voie droite qui est bloquée. Accident, mais la remorqueuse est sur place. Ça devrait se résorber dans les prochains instants. Il y a une nouvelle politique qui se découpe en trois. La première, c'est Lionel Carman qui revient au sein de la CAQ plutôt que prévu. Il va être là jusqu'à la finale, à la sortie de son ami François Legault. Il a dit qu'il a été assez ces termes n'étaient pas ça, mais moi, je l'ai senti comme en train de dire « Il a été charmant dans mon départ. » Alors, mm-hmm. Moi aussi, je serai charmant en revenant d'avance avec lui. L'élection de Christine Fréchette pourrait mettre la CAQ dans de bonnes positions. Elle pourrait permettre au parti de sauver sa peau aux prochaines élections. On voit une légère remontée quand même. Par contre, ça n'a pas dépassé le Parti québécois et le Parti libéral qui, eux, dans le dernier sondage léger fait du 20 au 22 mars dernier, se retrouvent maintenant nez à nez avec 33% des intentions de vote. Le président américain Donald Trump doit s'adresser à la Nation ce soir 21h au sujet de la situation en Iran. Il y a également la mission Artemis 2 de la NASA qui doit décoller aujourd'hui à 18h24. On suit ça. Mais la nouvelle qui nous concerne en ce moment, Jeff, c'est pour notre prochain invité parce que Québec va présenter une nouvelle stratégie sur la protection de l'enfance avec l'intention de réaliser un virage en misant sur les services de prévention. Et c'est une nouvelle obtenue par Radio-Canada. On a parlé de la stratégie qui vise à recentrer l'intervention de la DPJ pour les situations où elle est vraiment nécessaire.
On a justement au bout du fil Leslie Hill, qui est directrice nationale pour la direction de la protection de la jeunesse. Madame Hill, merci beaucoup d'être disponible pour nous à l'émission d'Angers.
Merci à vous.
Madame Hill, je lisais qu'il y avait une hausse de 110 % des signalements de négligence à la DPJ depuis 20 ans. Et devant ce constat, vous avez décidé d'attaquer le problème. De quelle façon allez-vous vous y prendre?
Ouais, peut-être juste une précision, c'est une hausse globale de tous les signalements, y compris la négligence.
Ah, d'accord.
Mais la négligence, c'est quand même la moitié des suivis en protection de la jeunesse. Donc, il faut s'attaquer aux besoins de ces familles-là, surtout. Donc, le virage, c'est vraiment un virage vers des services plus précoces et plus intensifs en première ligne. Mm-hmm. Donc, ça veut dire le développement de nouveaux modèles de services pour aider les familles dans la communauté.
Donc, comment on va faire le tout? Parce que, bon, moi, pour déjà avoir travaillé dans des centres communautaires, ça m'est arrivé de faire des signalements à la DPJ parce que, par exemple, un jeune à répétition arrivait, il n'y avait pas de lunch pour son dîner. Un jeune arrivait, oups, je remarquais des marques sur son corps qui n'étaient pas normales. Donc, comment on va procéder, justement, pour plus prévenir ces cas-là plutôt qu'en arriver au signalement?
Bien, mon but, c'est pas de diminuer les signalements. C'est d'assurer les bons services au bon moment aux bonnes personnes. Donc, je pense que si on voit des marques sur le corps des enfants ou on est inquiet sur les enfants, il faut continuer à les signaler. Mon but ici, dans ce virage-là, c'est vraiment d'essayer de dire, d'une part, la protection des enfants, c'est pas l'affaire d'une loi, c'est l'affaire d'une société et c'est l'affaire d'un ensemble de services publics. Donc, c'est le renforcement des services de première ligne et la capacité capacité de donner des services aux gens dans leur communauté. Maintenant, la négligence peut avoir des très graves impacts, surtout sur les jeunes enfants. Donc, c'est pas une banalisation des effets ou des impacts de la négligence. Mais faut-il être capable de discriminer ou discerner? Est-ce que c'est de la négligence parentale ou c'est des conditions de vie adverses, des besoins sociaux? Est-ce que c'est les conditions de vie? Est-ce qu'on doit travailler différemment avec ces personnes-là? Et peut-être c'est les deux. On a des parents qui sont prises avec toutes sortes de problématiques, des fois en lien avec la dépendance, par exemple. Donc, on a besoin de donner divers services, mais pas nécessairement par une prise en charge par un DPJ.
Madame Hill, c'est toujours un plaisir que vous acceptiez notre invitation en entrevue. Il y a des choses, par contre, dans tout ça qui ne sont pas claires pour nos auditeurs. Ce n'est pas tangible dans la compréhension. C'est quoi les changements qui seront réellement apportés? Puisque Régine Laurent, avec sa commission Laurent, avait tellement mis de choses claires dans ces points qu'il fallait changer. Quand on nous arrive avec des documents comme ça, c'est peut-être un peu lourd parfois. Là, on comprend que ça va être divisé en deux mesures. Une pour les services où il y a de la négligence faible et modérée, puis une autre qui est plus urgente, en fait.
Non, j'invite vraiment les gens qui sont intéressés d'aller voir les documents sur Internet parce que il y a 40 mesures dans le plan de mise en œuvre et c'est tout en étroite continuité avec la commission Laurent. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est prendre la vision de la commission Laurent, essayer de regarder où est-ce qu'on est rendu. Ça, je suis en train de faire ça présentement, le bilan des 5 ans, parce que ça fait déjà 5 ans qu'on a publié ce rapport-là. Donc, on apprécie ce qui est fait, mais on apprécie aussi ce qu'il faut continuer à faire. Et pour moi, l'enjeu ici, c'est le virage vers une autre façon de voir la protection des enfants au Québec qui inclut des services communautaires de protection dans la communauté. Puis ça veut dire le renforcement des services dans les CLSC, par exemple.
OK,
faut
parfait.
Qu'ils soient en mesure.
Donc, ça va en lien avec l'annonce de Mme Bélanger de vendredi dernier. Ceci dit, puis je vous donne des exemples concrets, d'accord? Est-ce que ça va être le retour, par exemple, des collations à l'école? Parce que ça permet aux jeunes de manger.
Bien, non, parce que c'est une stratégie qui est santé et services sociaux. C'est pas une politique gouvernementale où on a des mesures de plusieurs ministères. Mais c'est vraiment comment nous, on veut, en santé, services sociaux, s'attaquer aux problématiques sociales qu'on voit.
Oui, mais parlez-nous concrètement pour l'auditeur puis pour nous. Là, c'est quoi concrètement que vous allez faire? Il va-t-il avoir plus de ressources dans les centres communautaires? Comment on va faire pour aller chercher ces familles-là que le parent n'est pas nécessairement un mauvais parent, mais qu'il est négligent par son contexte à l'heure actuelle?
Est-ce que c'est dans la communication, comme Mme Laurent le demandait, entre les intervenants, soit les enseignants, la DPJ et les hôpitaux, d'avoir un peu moins de discrétion puis d'aller au fond des choses entre eux, que la communication soit ouverte?
Oui, mais c'est ça et c'est aussi développer des modèles qui n'existent pas. Donc, le CLSC doit aller dans les communautés, doit être accessible parce que les familles qui sont en contexte de vulnérabilité, malheureusement, c'est pas eux autres qui cognent à la porte du CLSC. Puis présentement, même s'ils cogneraient, les services qu'on arrive à y offrir sont pas suffisamment intensifs pour infléchir des problématiques sociales comme la négligence envers les enfants. Donc, on a besoin de modèles renforcés où on donne de l'intensité, où on va dans les milieux de vie du monde pour essayer de les aider et où on fait beaucoup de contacts, vous avez raison, avec les garderies, avec l'école, avec les organismes communautaires pour voir ensemble on fait quoi pour entourer ces familles-là. Parce que si on le fait pas, ils vont finir signalés à la DPJ avec très peu de moyens du côté de la DPJ aussi. Donc, ce que je vois, c'est vraiment un débalancement de financement où on a énormément investi des services de protection de la jeunesse, les services spécialisés, et on a peu investi pour développer des modèles qui sont capables d'aider le monde autrement. Donc, c'est vraiment ça le virage en lien avec la négligence. Puis c'est sûr que ça présuppose aussi un regard sur le financement pour voir comment on arrive à faire ce virage-là. Donc, ce qu'on annonce, c'est une stratégie avec un plan d'action aussi. Donc, si les gens vont voir, ils vont voir le plan de mise en œuvre. Il y a 40 mesures dans ce plan de mise en œuvre-là, avec 34 millions qu'on va mettre pour essayer d'aider les établissements pour faire le virage, pour développer les modèles innovants, pour les évaluer. Mais c'est sûr que c'est une transformation qu'on souhaite, là. Mm-hmm. C'est vraiment ça qui est désiré.
Madame Hill, vous êtes directrice nationale de la Direction de la protection de la jeunesse. On vous remercie infiniment pour le temps accordé à l'émission d'En Jase aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Leslie Hill, directrice nationale de la Direction de la protection de la jeunesse. On a immédiatement au bout du fil Nancy Audette, journaliste, auteure, conférencière et ex-enfant de la DPJ. Elle est spécialiste justement en matière de la protection de la jeunesse. Nancy, merci beaucoup pour ton temps pour l'émission d'En Jase aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Nancy, on vient de parler. Je sais que tu as écouté à Leslie Hill, qui est la directrice nationale. Puis ce que ça me dit, c'est que c'est encore des affaires bureaucratiques qui ont été faites, des organigrammes, des actions stratégiques, mais il n'y a rien encore qui aboutit sur le terrain. C'est décourageant.
J'ai beaucoup de respect pour Mme Hill. Tu sais, je tiens à le dire. Je pense qu'elle a hérité d'un qui est profondément dysfonctionnel. Il y a tellement de problèmes qu'on ne sait plus par quel bout les prendre. Puis tu as raison, tu sais, c'est une machine qui est rendue tellement grosse, une machine qui nous coûte des millions de dollars, mais qui a perdu en cours de route tout son humanisme, toute sa raison d'être. Quand on parle de la Direction de la protection de la jeunesse, c'est une organisation qui doit protéger les enfants puis les jeunes les plus vulnérables de notre société. Mais cette humanité-là, là, nécessaire, elle n'est plus, ou en tout cas, plus au rendez-vous comme elle devrait l'être. Il y a des petites parcelles, des fois. Je vois des petites parcelles de beau. Puis on m'accuse souvent de pas parler assez du beau. Mais je vois tellement de détresse. Je vois tellement de pas beau. Que tant que ça va être présent, tant qu'il va y avoir autant de gens qui vont souffrir à l'intérieur de ce système-là, on pourra pas faire ressortir le beau. Mais au bout de la ligne, quand on parle de 34 millions, vous savez, on a besoin de beaucoup plus que ça pour renverser la situation au Québec. Juste quand on parle de centres jeunesse, là, le tiers des centres jeunesse au Québec sont dans un état lamentable. Lamentable. Il n'y a personne qui nous écoute en ce moment là qui accepterait que ses enfants habitent dans des conditions comme ça, même physiques. Fait que même le 32 millions, juste pour mettre à jour puis offrir un milieu de vie sain à ces enfants-là, c'est rien. On n'est même pas capable de faire ça. Fait que j'essaie de m'accrocher à chaque petit brin d'espoir, mais en ce moment, mon réservoir il est assez bas, là, je vous dirais.
Madame Audet, vous avez été bénéficiaire. Deux, vous luttez énormément pour les droits de ces enfants-là. Pour nous, ce n'était pas concret, la dernière annonce. On parle d'argent. L'argent, on comprend où ça peut être investi, mais dans les mesures qui seront apportées, dans les priorités, là, à changer drastiquement. Entre autres, Mme Laurent parlait des communications, on l'a évoqué, que tout le monde puisse se parler, parce qu'un enfant qui arrive à l'école désorganisé, s'il se fait chicaner en plus par son prof, qui n'était pas au courant qu'il y a eu de la violence la nuit dernière chez lui, ça n'aide pas, il est ostracisé. T'sais, il y avait des choses comme ça qui étaient apportées. Je m'excuse, c'est long le témoignage, mais c'est pour apporter toute l'information. On ne comprend pas ce qui est concrètement changé. Ça ne nous aide pas à embarquer dans la lutte avec vous. Les auditeurs demandent du concret. En avez-vous?
En fait, là, on tente de mettre des choses en place actuellement, mais il y a énormément, de ce que je comprends, de la résistance à l'intérieur même du système. J'en ai rencontré moi-même dans les dernières semaines. Vous savez, tu sais, moi, j'ai fondé un OBNL qui vient en aide aux ex-placés de la DPJ et je vois une fermeture complète à l'extérieur, aux solutions qui sont à l'extérieur du système. Quand tu parles de communication, t'as raison. C'est un problème qui existe depuis plusieurs années. C'est comme si on se cache derrière la confidentialité des dossiers. On dit qu'on veut protéger les enfants. Mais en voulant cacher des informations qui sont cruciales pour la sécurité, pour le développement des enfants. Quand on se referme, hein, quand le système se referme sur lui-même, bien, il referme les enfants avec lui. Puis c'est très, très, très dommageable. Et cette ouverture-là dont on nous parle là, depuis plusieurs années, là, on la voit pas, cette ouverture-là, sur le terrain. ça n'existe pas encore à l'instant où je vous parle.
Oui, parce que moi, j'ai un petit, message, là...
Puis ça fait des années, là, ça fait des années qu'on en parle. Fait que visiblement, il y a un endroit, là, où ça passe pas. Je sais pas où ça passe pas, mais il y a un endroit, visiblement, ça se rend pas, là.
Non, en effet. Parce que là, mon NC, je m'attendais à une annonce de première ligne. Fait que je me disais, parfait, on va arriver avec des actions concrètes. Donc, on va dire, parfait, dans les écoles, voici comment on va aider ces familles-là. Parce que les familles passent tout le temps, anyway, par le milieu scolaire. Puis comme je l'ai dit, il y a des parents, des fois, qui sont négligents, mais juste négligents par manque de moyens, non pas négligents par méchanceté. On va doter les centres communautaires, justement, d'actions concrètes qu'ils vont pouvoir faire. Mais là, je sens pas ça au niveau de la direction de la protection de la jeunesse. Je suis tellement abasourdi. On fait juste s'émouvoir quand il y a une petite fillette à Grimby comme ça, quand un événement comme ça arrive. Puis après ça, pff, business as usual.
Ça, on est quand même à quelques mois d'une élection. Je pense pas qu'on a les moyens en ce moment de changer quoi que ce soit. Ce qu'on voit autour de nous, c'est des organismes qui sont à bout de souffle. C'est des organismes à qui on a coupé le financement. Des organismes qui pourtant sont là sur le terrain pour aider les familles vulnérables du Québec puis les enfants. Puis on vient encore charcuter. J'aimerais bien ça savoir concrètement là où on compte investir cet argent-là parce que c'est l'inverse qu'on voit. Ou ce qu'on voit souvent, c'est qu'on enlève d'un côté puis on redonne de l'autre. Je sais pas si vous comprenez, oui. C'est très, très malsain ce qui se passe actuellement au Québec au niveau du communautaire. C'est pas pour rien qu'un grand mouvement en ce moment, le communautaire à bout. Mais je fais partie de ceux qui pensent que la solution, elle se situe à l'extérieur du système. Parce que les enfants qui sont institutionnalisés depuis des enfants, puis depuis des années, puis des jeunes aussi, on se rend compte qu'ils répondent mieux à l'extérieur du système. Mais ça, c'est d'avouer, hein, c'est tout ça, c'est aussi c'est une guerre d'égo, hein. C'est d'avouer que la solution, ben, elle est peut-être pas à l'intérieur du système. La solution, moi, je pense qu'elle est à l'extérieur du système parce qu'il y a plus d'humanité à l'extérieur, dans ce qu'on voit dans les organismes, dans les intervenants. Les jeunes qui sortent de la DPJ à 18 ans, on leur offre des services. Hein. Vous savez, il y a des services maintenant qui existent après 18 ans, mais les jeunes sont tellement blessés. Ils ont tellement vécu de violences institutionnelles qu'ils ne veulent plus rien avoir avec ce système-là. Fait qu'il y en a qui préfèrent aller à la rue, dormir dans une tente, qu'être encore... être obligé encore de travailler avec ce système-là. C'est triste. C'est triste. Puis tant qu'on ne va pas adresser ça, tant qu'on ne va pas faire de vrais changements structurels, on ne va pas s'en sortir. Puis pour l'instant, je le vois pas. Je les vois pas, ces changements-là. Je vois pas les désirs. On a beau parler autant qu'on veut, mais concrètement, là, des actions concrètes, il n'y en a pas pour l'instant. Ça, c'est dommage, parce que dans quelques années, tout le monde, vous, moi, la société, tout le monde, on va tous payer le prix de ça. Parce que des enfants institutionnalisés, il y en a tellement en ce moment au Québec, ça ne fait aucun sens. Ils sont tout petits, là. On a des unités, là, c'est des petits-enfants de 4-5 ans qu'on place dans des unités, dans des petites mini-chambres, pas d'humanité, pas d'affection, pas d'amour. Beaucoup de conséquences toujours au niveau de leurs gestes, hein, au niveau de leur comportement, mais pas beaucoup de soins spécialisés.
Exactement.
Puis tu sais, il y a une perte d'expertise, là, vous le savez, là, il y a beaucoup de gens qui sont partis à la retraite, il y a une pénurie. Tu sais, quand tu as vécu des traumatismes, là, ou quand tu as été retiré de ta famille, tu as besoin de soins spécialisés pour guérir. Puis ça, ben, il n'y en a pas, là. On n'offre pas ces services-là pour permettre aux jeunes et aux enfants de guérir de leur trauma.
Nancy Audet est journaliste, auteur, conférencière, ex-enfant de la DPJ. Elle a parti son propre organisme justement pour les aider lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans, éviter l'itinérance. On te remercie beaucoup pour le temps passé à l'émission d'En Jase aujourd'hui, puis on va souhaiter que le prochain gouvernement soit meilleur que celui de la CAQ. Merci, Nancy!
Merci, au revoir.
Salut, Nancy Audet. Toujours intéressant de parler avec elle des cas de la DPJ. Donc, très déçu, moi, personnellement. Je m'attendais à quelque chose où on allait plus travailler sur le terrain quand on me parlait de services de première ligne. Et là, après avoir parlé avec Leslie Hill, directrice nationale de la Direction de la protection de la jeunesse, je me rends compte qu'on a encore créé un bel organigramme, un beau projet dans les autres sphères stratégiques, mais que ça ne changera rien pour l'enfant qui vit de la négligence à l'heure actuelle.
Une affaire qui peut me rassurer. assurer, c'est les fameux points, là, on va les voir, mais si sont basés sur, en partie, la commission Laurent, à ce niveau-là, ben on peut être un peu encouragé. Ouais. C'était quand même clair et précis ce qu'elle demandait. Je me rappellerai toujours du podcast qu'elle avait enregistré avec François Legault. François Legault était tellement venu petit dans ses shorts-là parce que probablement qu'il s'attendait à une conversation qui allait l'aider. Puis c'est Mme Laurent qui a pris le micro puis qui avait l'air de tout accabler la plus performante mm-hmm. dans ce podcast-là. Puis je dois dire, Jeff, qu'il y a un point en commun avec une autre chose dont on a discuté hier.
Vas-y donc.
Puis c'est les établissements scolaires. Décrépitude totale de nos écoles, le fait que ça n'a pas été pensé, que ça n'a pas été planifié en amont, qu'on est en train de faire des locaux temporaires qui finalement vont coûter la même chose qu'une nouvelle école parce qu'ils ne sont pas temporaires, que ça va être... Hier, on avait un dossier complet là-dessus. Puis c'est la même chose aujourd'hui avec ce qu'on entend de la DPJ. On dit qu'il faudrait tout mettre à terre pour être capable de recommencer. Ça ne peut pas être ça la solution. Mais chose certaine, c'est pas en changeant de gouvernement constamment puis de mission que ça va se passer puis ça va être mieux. Ça se demandait si des fois, Jeff, dans une passation d'un gouvernement à un autre, d'une équipe à une autre, il faudrait pas des choses qui ne bougent pas. Même si la vision entre des parties est différente, il faudrait voir où est-ce que ça ne devrait pas bouger quand quelque chose est entamé.
Ouais, mais dans le cas de la DPJ, par exemple, les hauts fonctionnaires qui travaillent, les gens qui sont à l'emploi de la DPJ ne bougent pas. Là,
mais c'est les projets, les visions bougent, par contre. Puis c'est ça qu'il faudrait voir sur celles qui sont entamées. Mm-hmm.
Beaucoup de réactions par texto, des gens qui disent hey, « Pourquoi on dépense des milliards dans plein de projets qui aboutissent jamais, mais qu'on travaille pas justement sur les vraies choses, c'est-à-dire prendre soin des enfants? » François qui travaille dans le communautaire qui nous disait « Il y a de la moisissure dans les centres jeunesse. Ils veulent que le communautaire en fasse plus, mais sans donner de ressources. » On a également une personne qui nous a écrit qui est un enfant du système de la DPJ qui dit qu'il faut vraiment... justement, aider les parents pour que les enfants soient élevés convenablement. Continuez de réagir au 418-971-1021. Dans un instant, Boulevard 1021, on va parler avec Mylène Moisan qui a fait le parcours des 12 travaux d'Astérix pour tenter d'avoir un rendez-vous avec son médecin de famille, même si elle en a un. Et on va également parler avec l'astrophysicien Robert Lamontagne qui va nous parler de la mission Artemis 2, décollage prévu aujourd'hui. Donc, Robert Lamontagne est astrophysicien et chargé de cours à l'Université Laval. Mylène Moisan, on va lui parler des médecins de famille. Pourquoi, Pascal? Parce que François Legault a dit ceci tantôt dans une de ses dernières prises de parole à l'Assemblée nationale.
C'est quand on est arrivé à la suite des libéraux, il y avait au Québec 6,4 millions de Québécois qui avaient accès à un médecin de famille ou un GMF. Il y en a aujourd'hui 7,4 millions et on en aura bientôt 7,5 millions d'ici le 30 juin, ce qui devrait répondre à la demande de tous ceux qui veulent avoir accès à un GMF.
Mm-hmm. Ben, ça n'a pas été le cas de Mylène Moisan. Elle nous raconte ça après la pause. Circulation avant de passer à la pause, Pascal.
Autoroute 40 est sortie 138 ouest, partiellement entravée. Il y a une panne. Sinon, il y a un accident qui attire beaucoup l'attention. Ça ralentit le secteur. Puis là, tu as tous les services d'urgence qui sont sur place. Sur Henri IV Sud, hauteur chemin Sainte-Foy. C'est la voie de droite et maintenant la voie centrale aussi qui sont bloquées pour procéder justement aux interventions d'urgence.
418-971-1021. C'est-tu facile pour vous d'avoir accès à votre médecin de famille ou si vous n'en avez pas, de prendre le guichet d'accès unique et de vous rendre en clinique. Mylène Moisan, ça n'a pas été facile pour elle. Moi, c'est pas facile pour moi, même chez une médecin de famille. Je ne sais pas pour toi, Pascal, c'est facile. Mais bref, textez-nous au 418-971-1021. On parle de ceci dans un instant à Boulevard 101 à l'émission N'en jase.